Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Connaissances et témoignages qui aujourd'hui se trouve délocalisée. Nous ne sommes pas en Mayenne, mais à Nancy, capitale de la Lorraine, et nous avons la chance d'être reçus par Didier Rance. Bonjour Didier Rance.
Bonjour.
Didier Rance, une première question pour satisfaire ma curiosité. J'ai lu que vous étiez diacre latin et byzantin. Est-ce que ça signifie que vous avez été ordonné deux fois?
Non, bien sûr, une seule fois. Je suis diacre latin, un des plus vieux de France, sinon par l'âge du moins par le diaconat, puisque ça fait quasiment 38 ans. Et un peu plus de 3 ans après avoir été diacre, l'Église catholique d'Ukraine m'a demandé si je voulais pas devenir aussi diacre dans leur Église. Donc ça, c'est Rome qui donne l'autorisation, renouvelable tous les 5 ans. Donc maintenant, ça fait quelques 34 ans, et des poussières. Donc ça fait vraiment partie de moi. Hein. Jean-Paul II aimait citer cette phrase qu'il a pris un auteur de l'Est, que l'Église a besoin de deux poumons pour respirer. Hein. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les birituels, comme on dit, qui respirent des deux poumons, mais j'avoue que c'est bien pour tout ce travail de passeur que j'essaye de faire.
Et en France, ça s'exprime, ça se pratique de quelle façon ce double diaconat?
Alors pour moi, le diaconat byzantin, je dirais, donc d'une part, encore la semaine dernière, je célébrais la Divine Liturgie à Paris, et puis je viens d'apprendre que la semaine prochaine, on aura un prêtre ukrainien, donc on pourra célébrer dans une église de Nancy aussi la Divine Liturgie pour beaucoup de réfugiés. Hein. Et puis un engagement avec cette église, pour ma part, il prend une dimension très précise. Je suis enseignant, je dis pour l'Université catholique d'Ukraine, hein, c'est-à-dire que j'enseigne à partir de ce bureau où nous sommes. C'est un cours de Master 2 en anglais, mais comme enseignant de cette université, et j'enseigne l'œcuménisme des martyrs et des saints. Et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, de penser que notre unité, comme l'a dit une fois Jean-Paul II, d'un point de vue théocentrique, nous sommes déjà unis dans nos saints. Et c'est une bonne chose qu'il faut souvenir quand les temps sont un peu difficiles.
Didier Rance, la plupart de nos auditeurs vous connaissent parce que vous avez été très longtemps directeur de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Vous pouvez nous dire deux mots de cette institution?
Oui, alors bien sûr, l'aide à l'Église en détresse, pour moi, c'est 30 années de ma vie, et des belles années, hein, donc en gros la moitié en régional et puis la moitié comme directeur national. C'est tout simple, parmi toutes les détresses qui existent dans le monde, il y a celle d'hommes et de femmes et d'enfants qui, parce qu'ils sont chrétiens, vivent. Ça peut être bien sûr la pauvreté comme détresse, mais c'est très souvent aussi, malheureusement, une détresse avec cause humaine, la persécution et le martyre pour certains. Et l'AED a une mission très simple, aider ceux qui souffrent pour leur foi à travers le monde.
Didier Rance, vous venez, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous rencontrer, vous venez de publier un livre, après de nombreux autres livres, un livre qui s'appelle Catholique d'Ukraine, avec comme sous-titre Un pays, une église, un message. C'est un livre qui a été publié en 2022 chez Arteje. Quel est votre lien avec l'Ukraine?
Oui, alors j'ai publié il y a 32 ans un premier livre qui s'appelait Catholique d'Ukraine, des catacombes à la lumière. Donc j'avais été au moment de la fin de la persécution, je suis allé en Ukraine interroger des hommes, des femmes, des gosses qui avaient tous en commun d'avoir souffert pour leur foi. Et c'est un livre de témoignages. Et puis 30 ans après, bon, d'une part, il y a l'actualité qui est évidente, mais aussi 30 ans après, on connaît beaucoup mieux l'Ukraine et on sait que c'est un des grands pays d'Europe et une des grandes nations européennes, et donc qui méritait d'être connu dans ce qu'elle est réellement.
Alors justement, vous dites un grand pays. J'avoue que pour moi, par exemple, l'Ukraine, jusqu'aux événements récents, je ne la situais pas bien et je la considérais comme une province de la Russie. Je suppose que c'est tout autre chose.
Oui, alors, trois données toutes simples pour situer un peu les choses. Au niveau de la superficie, l'Ukraine est plus grande que la France, hein, 600 000 kilomètres carrés, donc un peu. Au niveau de la population, en 1920, l'Ukraine avait un tout petit peu moins que la France, hein, un peu plus de 30 millions. Hein. Aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup plus que la moitié. Pourquoi? Deux génocides sur la terre ukrainienne, les horreurs de la guerre, les massacres, et tout un tas d'autres raisons. On le voit aujourd'hui avec tous ceux qui ont fui le pays, hein. Donc une histoire tragique, hein. Mais aussi une histoire, pour utiliser un mot qu'on emploie aujourd'hui beaucoup, mais que je crois est très juste dans ce cas-là, une histoire de résilience. aux deux extrémités de l'Europe, vous avez deux pays, l'Irlande, l'Ukraine. Et ces deux pays ont vécu tous les deux pendant trois quarts de millénaire sous domination étrangère. Les Ukrainiens sont un peu fiers parce qu'ils disent, nous, nous avons mis 751 ans avant de nous libérer de la domination étrangère. Les Irlandais, ils ont mis 752 ans. Hein. C'est les Anglais. Voilà. Mais dans les deux cas, voilà donc deux cas de pays qui sont vraiment ni les Irlandais ni les Ukrainiens n'ont cessé d'être Irlandais et Ukrainiens du temps où ils étaient officiellement anglais ou polonais ou lituaniens ou russes ou tatars, etc. Ils n'ont jamais cessé d'avoir leur identité propre. Et maintenant, c'est deux nations au sein de notre Europe.
Oui, on y reviendra. Ça veut dire qu'ils n'ont pas découvert leur nationalité ukrainienne, au moment de l'invasion russe, récente.
Non, 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 pas du tout. Alors, ce qui est plus compliqué pour l'Ukraine que pour l'Irlande, c'est que l'Angleterre n'a jamais prétendu s'appeler Irlande. Tandis que le problème du vrai nom de l'Ukraine, qui, l'Église catholique est souvent assez conservatrice, jusque les années 50, dans les textes officiels du Saint-Siège, on ne parlait pas d'Ukraine, on parlait de la Ruthénia. Ruthénia, c'était la façon en latin de parler de la Rousse. Vous voyez tout de suite qu'il y a un petit problème là. Et les Ukrainiens de l'Ouest eux-mêmes se sont appelés jusqu'en 1900, non pas Ukrainiens, mais Ruthènes, hein, en français, Ruthénie, en latin Roussine, dans leur propre langue. Hein, ça dit bien ce que ça dit. Et c'est en fait, quand la Moscovie a pris cette région aux Lituaniens et aux Polonais, qui l'occupaient jusqu'alors, que la Moscovie est devenue la Russie. Et que ce qui était le cœur de la Ruthénie, le cœur du pays russe, est devenu Ukraine, le pays des frontières, le pays des loin, des lointains. Donc, certains Ukrainiens pensent qu'ils devraient peut-être demander aux Nations Unies de pouvoir récupérer leur vrai nom. Mais ils le disent plutôt sur le mode de l'ironie. Hein, là, et puis, ils ont tellement souffert pour ce nom d'Ukraine. C'est comme le nom Uniate. On va parler des gréco-catholiques, hein, et on les appelle généralement les Uniates. Or, ce mot a été inventé contre eux, hein, et de façon fausse par rapport à ce qu'est leur vraie histoire. Hein. Mais comme à l'époque de l'Union soviétique, c'était un délit et même un crime qui pouvait vous envoyer dans le goulag, les survivants et une partie de la population, maintenant, ils disent oui, autant s'appeler Uniate parce qu'on l'a payé assez cher. Voilà. Donc, ce problème des noms est très complexe, bien sûr, mais souvent, les noms, c'est ce qui
Ça signifie
détermine.
quelque chose.
Ça signifie quelque chose. Alors, pour revenir sur l'Ukraine, c'est très simple. Hein, ben, j'utiliserai le mot d'Ukraine, ça simplifiera les choses. Il y a un peu plus de 1000 ans, une grande puissance à l'est de l'Europe. J'aime bien dire cette petite histoire. À un moment, il y a un des princes, Yaroslav, et il fait, lui, ses descendants, ses cousins, tout cela, ils font 45 mariages princiers en Europe, hein, dont les deux tiers avec les Latins, alors qu'ils sont de rite grec. Hein, donc l'histoire orthodoxe catholique, ça n'a rien à voir avec ces réalités à ce moment-là. Hein. Et une de ses filles vient épouser le roi de France. Hein. On est aux alentours de 1042. Hein. Et on découvre dans l'histoire de France qu'on a eu une princesse de Kiev comme reine de France. Et tiens, celui-là, il avait un petit peu le goût de l'exotisme. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on découvre? Que la princesse Anne, quand elle est arrivée en France, devenue la reine Anne, eh bien, elle a trouvé que la France. Mais Paris, c'était sale, c'était complètement, on dirait aujourd'hui, sous-développé, ça n'avait pas le gel. Son royal mari était analphabète, enfin, elle qui venait d'un pays d'une grande culture et tout cela. Donc, voilà, ça nous oblige un peu à remettre les choses au clair. Il y a vraiment une grande puissance européenne. Hein, et puis, il y a eu la catastrophe de 1240, les Mongols qui arrivent et puis qui cassent tout. Hein. Mais ce qui est aussi important pour la Russe de cette époque, c'est que ils n'ont pas été marqués par la rupture de 1054 entre Rome et Constantinople. Au Moyen Âge, il y a deux grands conciles qui essayent de refaire l'unité, et un des deux, celui de Florence, va d'ailleurs beaucoup plus loin que Vatican II dans ce domaine, parce que l'unité a été refaite avec la plupart des églises, au moins pendant un certain temps. Et dans ces deux conciles, ce sont des ecclésiastiques ruthènes, donc ukrainiens, on dirait aujourd'hui, qui jouent un rôle majeur hein, pour l'unité des chrétiens. Hein. Le roi d'Ukraine, ce qui est l'Ukraine occidentale, recevait sa couronne du pape à l'époque. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment un pays entre les deux, mais un pays qui a une vocation de pont, mais c'est un pays qui, ce qui est entre deux. J'habite dans un pays, la Lorraine, qui s'est trouvé entre deux grandes Francies, la Francie orientale qui est devenue la Germanie, la Francie occidentale qui est devenue la France. Le destin de la Francie médiane, hein, ou le Thuringe, ben, il a été un petit peu pris en sandwich. C'était aussi le problème de l'Ukraine.
Oui, ce sont des terres de passage et en particulier de passage des envahisseurs.
Voilà.
Puisqu'on parle de noms, dans votre livre, on évoque souvent la Galicie. Qu'est-ce que
Oui.
c'est que la Galicie?
Alors la Galicie, le Halych en ukrainien, c'est l'ouest du pays. Quand les Mongols sont arrivés, l'ouest s'est libéré très vite de la domination mongole. Dans les parties les plus lointaines, et surtout aux bordures extrêmes, là où se trouvait Moscou, qui n'existait pas au temps de la grandeur de la Rousse, hein, ça, il y avait des ours et d'autres animaux dans la forêt, mais Moscou, donc, sont restés pendant des siècles sous domination mongole, hein, ce qui explique aussi une histoire qui n'est pas la même, bien sûr. Hein, bien avant la France, la Galicie adopte ce qu'on appelle le droit de Magdebourg, hein, à savoir que chaque personne ne peut être inquiétée pour ses opinions religieuses, hein, et ça au XIIIe siècle. Voyez, donc là, un pays très à la pointe, je dirais, de la tolérance, et avec des princes qui sont des modèles, hein, de culture, et de vie chrétienne aussi.
Didier Rance, nous arrivons au terme de la première partie de notre émission Connaissances et témoignages. Nous allons, comme c'est l'usage, marquer une petite pause musicale et nous reprendrons notre émission ensuite. Nous reprenons le cours de notre émission Connaissances et témoignages. Nous sommes reçus à Nancy, en Lorraine, par Didier Rance, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Catholique d'Ukraine, un pays, une église, un message, paru en 2022 chez Arthège. Didier Rance, on ne peut pas parler de l'Ukraine sans parler de son histoire religieuse. Quels sont les faits marquants de cette histoire?
Alors, c'est relativement simple. Donc, au départ, il y a une seule église qui n'est ni catholique ni orthodoxe, qui est grecque, hein, mais en communion avec le pape. Hein, les mots catholiques orthodoxes, c'est des mots presque d'hier, enfin, qui ont peut-être 400 ans, quelque chose comme ça, c'est rien du tout par rapport à cette histoire longue, hein, qui n'a jamais rompu avec Rome, tout en étant en lien avec Constantinople, et tout autant d'ailleurs avec la Bulgarie, qui lui donne le slavon, sa langue et une bonne partie de sa culture. Hein, à partir, les choses se sont dégradées, non pas à cause de la rupture entre Rome et Constantinople, mais très largement à cause de la réforme. La réforme, il y a des régions d'Europe centrale, une partie de la Hongrie en particulier, qui deviennent calvinistes. La Pologne est surnommée à Rome comme le paradis des hérétiques, parce que les protestants sont en train de devenir majoritaires dans ce qu'est la Pologne. Le patriarche de Constantinople écrit un livre d'inspiration très nettement calviniste, et les évêques grecs de la Ruthénie, donc l'actuelle Ukraine, sont très inquiets. Parce qu'il y a d'une part le grand voisin de la Moscovie qui lorgne sur eux, et puis d'autre part, il faut reconnaître que les Polonais, tout l'amour qu'on a pour eux, ils font quand même une différence entre les Latins qui sont favorisés par rapport aux Grecs, et puis ils n'ont plus aucune, n'ont plus confiance dans Constantinople. Et finalement, ils disent, il faut qu'on renouvelle l'union avec Rome. Et donc, en 1596, il renouvelle cette union avec Rome, au départ avec la totalité des évêques, hein, les 8 sur les 8. Après, il y en a deux qui se dédieront, quelles que soient les causes. Hein. Et donc, une partie des fidèles seront en communion avec Rome, et l'autre partie seront en communion avec Constantinople. Et au fur et à mesure que la Russie va manger l'Ukraine, en communion avec Moscou, qui va d'ailleurs prendre la direction de toute cette région du monde, alors qu'avant Moscou n'était qu'une dépendance par rapport à Kiev. Hein. Mais pendant des dizaines d'années, ça se passe pas trop mal. Hein. On a même, maintenant que les archives ont été ouvertes, on a pu voir que des prêtres qui appartiennent à une des deux églises, ils instituent comme testateurs le prêtre de l'autre église, tout là. Donc ça se passe plutôt bien. Ce qui va complètement changer la donne, c'est effectivement l'arrivée des Russes de Moscou, hein. D'abord la Moscovie, puis ensuite l'Empire russe. Hein. Et avec un fait qui a été dit par le chef de l'Église catholique d'Ukraine, hein, à savoir qu'il y a pas un seul exemple dans l'histoire, depuis le premier contact, c'est 1655, hein, entre une armée russe et des catholiques, où les catholiques n'aient pas été persécutés et dans quasi tous les cas, liquidés plus ou moins à terme. Hein. C'est un peu étrange à dire, mais il y a une époque pas si lointaine, 18e siècle, début du 18e siècle, où 100% des Biélorusses étaient catholiques. Alors qu'aujourd'hui, M. Loukachenko, une fois je l'ai entendu, il disait que je suis orthodoxe, je suis biélorusse, je suis un orthodoxe athée, mais je suis orthodoxe. Hein. Donc là-dessus, les choses ont changé. Mais l'Église catholique se présente elle-même, par la voix de ses chefs, après je citerai Jean-Paul II qui dit à peu près la même chose, comme des églises orthodoxes. Ce sont des églises orthodoxes unies à Rome. Et il ne faut surtout pas souhaiter qu'un jour les églises orthodoxes deviennent catholiques. Au sens latin, j'entends. Hein. Il faut souhaiter qu'elles restent ce qu'elles sont et tout ce qu'elles apportent par leur tradition, par leur piété, par leur vie monastique, tout ça, tout ce qu'elles apportent à l'ensemble de la vie chrétienne, mais qu'elles retrouvent cette communion réelle avec le successeur de Pierre. Jean-Paul II, il dit, les églises gréco-catholiques, parce qu'il y en a aussi en Roumanie, en Pologne et dans d'autres pays, les églises gréco-catholiques sont des églises qui sont orthodoxes par la foi et qui sont catholiques par l'amour, la charité, la communion avec le successeur de Pierre. Et ça les définit bien. Et elles l'ont payé très lourdement au cours des siècles.
Quand on parle de persécution, on peut peut-être évoquer Catherine II, qui a, je crois, mené une persécution sévère.
Tout à fait, oui. Avec, d'ailleurs, les méthodes que va utiliser Staline, il les prend à l'époque tsariste. Hein, c'est tout simplement, on trouve quelques jeunes prêtres catholiques ambitieux. Ils sont consacrés secrètement comme évêques orthodoxes, ou prêtres d'abord, puis après évêques orthodoxes, et ils déclarent qu'ils retournent à la mère patrie de Moscou, alors qu'il n'y a jamais eu. L'ouest de l'Ukraine, là où sont les gréco-catholiques, avant 1945, n'avait jamais été dans la même entité politique que Moscou. C'est aussi simple que cela, quoi. C'est donc deux mondes totalement différents. Ce qui explique aussi les révoltes. Il y a eu des révoltes contre les Polonais, hein. Il y a eu 40 en un siècle et demi, donc c'est quand même pas négligeable. Mais il y a aussi de grosses révoltes contre le tsar et puis les gréco-catholiques. En 1945, au point de vue politique, la résistance dans l'Ukraine occidentale contre la soviétisation, ça a duré pendant 10 ans sans aucune aide de l'extérieur. Donc ils veulent être eux-mêmes, c'est tout.
Vous parlez de l'église gréco-catholique d'Ukraine, vous parlez de l'église orientale de rite byzantin unie à Rome. Quelle est la bonne définition pour parler de ces catholiques qui sont fidèles à Rome et qui vivent dans cette région?
Alors, qu'on est dans la région, on les appelle catholiques tout court. Ce sont les Latins, qui sont souvent d'origine polonaise ou slovaque ou hongroise, qui doivent spécifier je suis catholique latin, parce qu'ils sont moins de 10% des catholiques, hein, et que les 90%, ils sont de rite grec. Hein. Alors, le titre officiel, ce sont les églises orientales unies à Rome, enfin, qui font partie de la communion catholique de rite constantinopolitain ou byzantin, hein, ukrainien ou roumain ou albanais ou autre, mais. Aujourd'hui, généralement, ils utilisent à l'extérieur le terme gréco-catholique, hein, et assez souvent aussi orthodoxe unie à Rome. Mais ça, il faut l'expliquer, bien sûr.
Alors le troisième mot de votre sous-titre, c'est un message. Quel est ce message?
Alors, le message des Ukrainiens, c'est un message de résilience, ça c'est sûr. Personne ne sait comment la guerre. Elle est dans les mains de Dieu et puis aussi des hommes. Mais au niveau religieux, le message de cette église, c'est un double message de fidélité. Ils l'ont payé tous les martyrs, surtout à l'époque soviétique. Hein, donc c'est une église qui a été totalement liquidée pendant un demi-siècle. Hein, et puis un message d'ouverture. Hein. Vous voyez, moi je travaille pour l'Institut de Communisme de l'Université catholique. Qu'a fait le recteur de l'université quand il a ouvert son université? Il a fait deux choses. D'une part, il a demandé à Foy Lumière d'être partie prenante pour créer l'université. Hein. Ça peut nous sembler un peu étrange, mais la situation des personnes avec un handicap à l'époque soviétique était terrible, et donc il a pensé qu'il fallait absolument que ce soit une priorité pour tous ces jeunes qui allaient devenir l'élite de la nation. Et la deuxième chose, il a demandé à un orthodoxe d'origine russe de prendre la tête de l'Institut de communisme. Donc, et puis, dès le début, j'ai travaillé avec eux. Donc, il y a ce double message. Et on dit bien, en ce moment, vous voyez, il y a des problèmes à l'intérieur des églises orthodoxes. Hein, et l'église du patriarcat de Moscou dit qu'elle a rompu avec Moscou, donc qu'elle a le droit d'être comme les autres, même si c'est certainement un peu plus complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'église catholique a rappelé au gouvernement ukrainien la liberté religieuse, quelque chose qui ne se négocie pas. Hein, alors que toutes les églises catholiques avaient été soit liquidées, soit données à cette église orthodoxe. Donc il y a un passif qui n'est quand même pas facile. Les prêtres devaient dénoncer les fidèles qui avaient des tendances catholiques. Il y a 200 ans, hein, ça s'est passé la génération précédente. Donc malgré cela, donc c'est vraiment une église qui a à cœur d'essayer d'être le plus fidèle possible à sa double identité orientale byzantine. Et puis en communion avec le pape, hein, et donc dans cette catholicité, et qui, je pense, le montre et le montre aujourd'hui en Europe.
J'aimerais bien, Didier Rance, si vous le voulez bien, que nous terminions cette émission par la lecture d'un. Alors vous allez nous dire exactement quel est ce texte, mais un texte que j'ai trouvé très beau.
Oui, alors là, alors c'est une prière pour l'Ukraine qui est composée par un musicien qui habite de côté, qui est encore russe à l'époque, hein, Mikolaï Lysenko, hein, et qui compose la musique sur les paroles d'un orthodoxe très proche des catholiques. Et les deux seront d'ailleurs envoyés en Sibérie pour avoir commis ce crime. Hein, et le chant est adopté dès la fin du 19e siècle par les catholiques et maintenant par tout le monde catholique et orthodoxe. Hein. C'est un chant très ample, hein. Je vais le lire. Hein. Seigneur grand et tout-puissant, protège notre chère Ukraine, comble-la de liberté et de lumière, comble-la de tes saints rayons, que ta sagesse nous éclaire, nous tes enfants. Dans l'amour pur et éternel, laisse-nous, Seigneur, grandir. Nous t'en prions, ô Seigneur tout-puissant, protège notre chère Ukraine, accorde à notre peuple et à notre pays toute ta bonté et ta grâce.
Merci Didier Rance, merci de nous avoir
Merci
reçus.
à vous.
Notre émission Connaissances et témoignages se termine. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité à notre antenne. Au revoir Didier Rance.